Elena de Laurence, est-ce que Instagram, pour une actrice, pour vous, c'est déjà un lieu théâtral?
Oui.
Comment vous l'utilisez?
Moi, je l'utilise personnellement depuis quelques années et un de mes plus grands plaisirs est de tester le plus nombre de filtres possible. Et je suis en train de devenir spécialiste en la matière.
Et le dernier en date?
Le dernier en date, ouais. Alors c'est un filtre Scream. Donc ça me déforme le visage, comme le masque, vous savez, le masque de film d'horreur qui fait un visage très long et des yeux immenses.
Avec un cri. Ouais.
Un cri.
Et c'est une scène comme les autres. Ça permet de mettre en fiction pas mal de moments de sa vie.
Oui, la fiction, oui, les personnages, ça permet aussi de se regarder et de se transformer, c'est-à-dire qu'on devient à la fois comme si on rentrait dans un film ou à la fois dans un dessin animé, vu que le filtre, en tout cas, il dessine quelque chose sur son visage. Et c'est comme si on avait sur un miroir pu dessiner un maquillage, un accessoire. Du coup, le miroir était directement transformant. Alors après, c'est aussi quelque chose qui enferme beaucoup, parce que quand un miroir, on peut imaginer tous les visages ou tous les maquillages et les têtes possibles. Mais là, on est, quand il y a un filtre, en tout cas, on est directement transformé sans trop d'autres possibilités. Mais après, c'est avec ça qu'on peut jouer. C'est une contrainte intéressante.
Sofiane et Lily, vous avez 15 et 18 ans, donc vous êtes un peu plus nées avec Instagram et les réseaux que nous. Vous faites beaucoup de stories ou pas?
Quand j'étais un peu plus jeune, il y a 3-4 ans, c'est vrai que Instagram, c'était clairement quelque chose où je postais tout et n'importe quoi. Et en fait, maintenant, je m'en sers plus. Enfin, pour moi, c'est devenu... C'est plus une vitrine professionnelle, donc il ne faut pas non plus s'en détacher parce que ça permet de faire beaucoup de rencontres. Mais il faut faire attention à ce qu'on poste aussi parce que pour les futurs employeurs, tout ce qui est TikTok et tout, c'est pas terrible quoi.
Sofiane ?
Alors moi du coup, vu que j'ai 15 ans, j'ai beaucoup utilisé Instagram quand j'étais plus jeune, donc dans mes années de 6e et de 5e. Et du coup, comme l'a dit Lily, je l'utilisais un petit peu pour poster tout et n'importe quoi. Et je pense qu'avec le temps, Instagram a su se créer une sorte d'identité et on fait beaucoup plus attention à ce qu'on poste. Et il y a vraiment une réflexion avant même de poster. Et l'action de poster, même si on peut supprimer, elle a quand même quelque chose d'assez décisif. Dans le sens où on a des difficultés aujourd'hui de poster quelque chose... Un peu sur, comment dire, l'impulsivité, etc. Et du coup, c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec Instagram aujourd'hui, parce que je suis quelqu'un qui est plutôt en réseau social, qui était plutôt proche de Twitter. Et du coup, un réseau social où c'est un peu plus, comment dire, spontané et où on peut débattre plus facilement. Et du coup, Instagram, il y a un petit côté superficiel, mais à la fois intéressant dans son côté artistique qui m'échappe pour l'instant. Mais je pense qu'en m'appuyant un peu plus dessus et en étudiant plus profondément, je pense que ça peut être intéressant à voir.
Et c'est vos vrais noms ou vous avez des pseudos, des personnages de fiction?
Non.
Moi, c'est mon vrai nom, mais tout le monde pense que c'est un pseudo. Je m'appelle Ducœur, du coup. En plus, Lily, mais c'est mon vrai nom, pour le
Lily
coup.
Lily Ducœur.
Oui.
Il est 20h sur France Culture et chacun se met en scène chaque jour. On se raconte des histoires, on met des filtres à nos journées, un peu de fiction. On a souvent un téléphone, il propose des nouvelles scènes, les réseaux sociaux. Alors Marion Sieffert ne voit pas pourquoi ne pas les investir avec le théâtre. Son spectacle Jeanne d'Arc commence par « Encore une journée de merde », écrit par Jeanne sur son smartphone. La mère envoie un texto pour dire qu'elle est à une réunion, alors Jeanne, depuis sa chambre, peut se connecter au monde. Le monde, ceux sur Instagram qui vont aller voir son live et commenter et entrer en contact. Et puis le monde, les spectateurs de théâtre en chair et en os. En ce moment, le monde se réduit par endroits. Marion Sieffert, elle, tente d'élargir les scènes et les récits. Jeanne d'Arc, c'est le pseudo Instagram de Jeanne qui, à 16 ans, prend la parole pour la première fois. Elle nous dit « Ma vie, c'est Bienvenue en enfer ». Le lycée est entre la route nationale et le cimetière. Orléans, c'est mort et les seules fêtes qu'elle fait, c'est avec l'aumônerie. Elle met en scène sa vie intérieure, donnée à l'extérieur et au plus inconnu qui va se connecter. Alice Zeniter, la romancière, crée un seul en scène, Je suis une fille sans histoire, pour nous parler directement à la première personne de nos récits qui se ressemblent peut-être encore un peu trop, avec beaucoup d'hommes remarquables qui font des choses incroyables. Mais une fille sans histoire, ça n'existe pas. Alors Marion Sieffer et Alice Zeniter regonflent la fiction avec des récits qui manquaient. Nous sommes donc avec Marion Sieffer et sa comédienne Elena de Laurence. Le spectacle Jeanne d'Arc, c'est sur Instagram et c'est au Théâtre de la Commune à Aubervilliers dans le cadre du Festival d'automne jusqu'au 18 octobre et puis en tournée un peu partout en France. Nous sommes avec Sofiane Benlarbi, 15 ans, Lily Ducœur, 18 ans, qui ont vu le spectacle et qui vont nous en parler. Au téléphone, nous serons avec la romancière Alice Zeniter qui vient de créer son seul en scène « Je suis une fille sans histoire » à la Comédie de Valence. Elle sera en tournée à Alençon, La Roche-sur-Yon, Saint-Brieuc et Paris en mars. Ce sera au Théâtre du Rond-Point. En studio avec nous, PR2B, son EP s'appelle Des rêves. Il est sorti à la rentrée et elle part en tournée. C'est Tous en scène sur France Culture. On commence par prendre, comme chaque semaine, des nouvelles du théâtre dans le monde. Et ce soir, nous sommes à Sao Paulo, au Brésil, avec le producteur de théâtre et de danse, Ricardo Fraia.
Olá, meu nome é Ricardo Fraia. Eu sou produtor brasileiro de teatro e dança, atualmente vivendo em São Paulo. A cidade de São Paulo só vai poder reabrir seus teatros quando atingir o que eles chamam
de
zona verde.
La ville de São Paulo va pouvoir ouvrir ses théâtres quand elle sera dans la zone verte, ce qui devrait arriver dans les prochaines semaines après plus de 7 mois de fermeture.
Nosso governo federal atual não tem
Notre gouvernement ne s'intéresse pas beaucoup aux artistes, il les range plutôt dans le camp de l'opposition. Mais après une proposition du Parlement, un fonds d'aide d'urgence a été débloqué après 7 mois sans rien pour la culture. Il y a d'autres institutions privées qui sont très importantes pour notre culture, comme SESC à Sao Paulo, qui depuis le début a proposé en ligne un programme où le théâtre, la danse, la musique étaient présentés par les artistes depuis chez eux, depuis leur maison.
Nous avons durant tout ce période un programme online de théâtre, danse, musique, où furent présentés par artistes au vivo de leurs maisons.
Maintenant, c'est une autre étape. Les spectacles ont lieu sur scène, sans public, mais ils sont retransmis en direct. On espère, après la réouverture des théâtres, pouvoir apprendre des pays qui l'ont déjà fait, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas.
Et nous espérer no que é eficiente ou não.
Mais la plus grande bataille pour le théâtre et pour les artistes au Brésil, ça va être de se réinventer dans ces conditions, après cette longue période de négligence de nos politiques. C'est le premier jour du couvre-feu dans plusieurs métropoles aujourd'hui en France. Le spectacle Jeanne d'Arc, vous l'avez préparé depuis un moment, donc pendant le confinement, aussi pendant le printemps. Vous aviez réfléchi à le faire uniquement sur Instagram, si tout à coup les théâtres ne pouvaient pas ouvrir ?
Alors oui, je veux préciser aussi que cette idée, on l'a eue
avant,
en septembre 2019, donc à un moment où on ne pouvait pas du tout imaginer ce qui nous arrive en ce moment. Et en fait, oui, on imagine, dans le pire des cas, on a plusieurs scénarios, mais en fait, on imagine si on a une date de tournée qui tombe et qu'on ne peut pas la jouer au théâtre devant un public en chair et en os, de le faire, oui, uniquement sur Instagram, soit depuis le théâtre, soit depuis même une chambre.
Géraldine Guy, Jeanne d'Arc, 1996.
Moi, en tant que catholique pratiquante, pour moi, c'est l'une des plus grandes saintes. Surtout qu'en plus, en tant qu'Orléanaise, j'ai 16 ans et demi et j'ai suivi les défilés de Jeanne d'Arc 15 années de suite. J'ai défilé. Pour moi, être Jeanne d'Arc, c'était vraiment un rêve. J'en rêvais depuis toute petite. Ce que j'admire beaucoup en Jeanne d'Arc, c'est son courage, le courage qu'elle a eu. Elle n'a pas eu peur de ses voix.
Alors, ses voix, justement. pour vous ces voix, c'est quoi? Parce que c'est quelque chose sur lequel les historiens, les politiques sont beaucoup battus, les voix. Est-ce que c'est un élément important pour vous dans l'image que vous avez de Jeanne d'Arc?
Bah, bien sûr. Mmh. Ces voix venaient de saints et elle a écouté ces saints et puis elle les a suivis.
Donc là, vous êtes préparée depuis très très longues années. Là.
Ah oui. J'ai commencé à défiler, j'avais 5 ans et demi, en petite demoiselle de paroisse.
Vous étiez habillée comment?
J'étais en rouge et vert. Je représentais la paroisse de Saint-Donatien. Et puis ensuite, j'ai défilé dans le scoutisme. Voilà.
Et ensuite?
Et ensuite, bah là, j'ai défilé en tant que Jeanne d'Arc.
Un peu de sérieux quand même dans cette journée historique.
Marion Sieffer, vous n'avez pas été Jeanne d'Arc au défilé à Orléans, mais vous avez quand même grandi adolescente à Orléans, où se passe chaque année ce défilé. Donc là, on entendait Jeanne d'Arc 1996 témoigner. Jeanne d'Arc, ça s'écrit D-A-R-K, et c'est le pseudo de Jeanne qui va parler sur Instagram dans le spectacle. Mais c'est quand même une figure importante pour vous, j'imagine, ou en tout cas intéressante, par rapport à votre histoire à vous et aussi par rapport au catholicisme, puisque Jeanne grandit dans une famille catholique et ça va être assez important dans son histoire, dans l'histoire qu'elle va raconter sur Instagram et au théâtre. Pourquoi Jeanne d'Arc comme point de départ?
Alors, il y en a plusieurs. Alors c'est vrai que, comme vous l'avez dit, le fait que j'ai passé mon adolescence à Orléans, que j'ai vu ces jeunes filles chaque année incarner Jeanne d'Arc, défiler devant toute la ville et puis de voir que c'était une figure, parce qu'autour d'elle, elle n'est pas seule. Il y a, on va dire, il y a l'église qui défile, il y a les politiques, il y a aussi l'armée. Donc c'est un défilé qui est aussi militaire. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler sur Jeanne d'Arc, donc avec Elena, c'est aussi un projet qu'on a depuis longtemps, et parce que je savais qu'Elena rêver de jouer Jeanne d'Arc, alors peut-être pas à Orléans devant les Orléanais, mais dans d'autres contextes. Donc c'est pour ça que j'avais aussi pensé cette pièce avec elle. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéressait, c'est Jeanne d'Arc en tant que c'est une figure qui est appropriée par énormément de personnes. Puis c'est un peu le monde blanc dans toute sa splendeur français, c'est-à-dire catholique, étatique, et donc c'était ce monde-là que j'avais envie d'investir en utilisant aussi mon histoire personnelle et ma connaissance très intime de cette religion qui est la religion catholique et qui se vit un peu comme la religion normale, on va dire, dont on parle pas, qui fait pas la une des journaux, contrairement à la religion musulmane où depuis 15 ans on compte plus les unes en fait des journaux, et la religion catholique, on n'en parle pas, on ne l'interroge pas, ou alors on la prend comme un folklore, on ne la prend pas comme telle, et on ne la regarde pas vraiment, en tout cas, je trouve. Et du coup, moi, ça m'intéressait d'utiliser mon histoire et mes sensations, de retrouver mes sensations d'adolescente pour en parler.
Et vous parlez de honte quand vous parlez de cette époque-là, du souvenir de ce moment-là?
Oui, alors c'est vrai que je pense que, je sais pas si ça fait ça à tout le monde, mais il y a toujours une part de son histoire dans laquelle on s'est pas forcément aimé. Et je pense que c'était une période de ma vie qui était pas forcément facile pour moi. Et donc il y a eu, c'est quelque chose que j'ai fait, qu'à partir d'un moment j'ai décidé que je changeais, que ça suffisait, donc j'ai comme tiré un trait. Et là du coup, plusieurs années après... je me suis dit justement, cette période-là, elle est hyper intéressante. J'ai des souvenirs, des émotions qui sont très précises, très franches, très fortes. Et après, moi aussi, j'aime aller dans ce qui n'est pas forcément... j'aime creuser, en fait. Et la honte est souvent... quand on a honte de quelque chose, c'est souvent un bon indice que c'est intéressant d'aller voir plus loin. Voilà.
La différence entre votre adolescence et celle, par exemple, de Sofiane et Lily, qui sont là et qui ont 15 et 18 ans, c'est que, justement, les réseaux n'étaient pas présents, qu'il y avait pas, que vous ne pouviez pas, à 16 ans, faire un live Instagram. Pourquoi, là, vous avez eu
la sensation, l'envie justement d'explorer Instagram comme lieu théâtral, comme on en parlait au tout début de l'émission avec Elena de Laurence?
Ouais, en fait, j'avais pas du tout envie de raconter ma petite histoire, comme on dit, ou de refaire un retracé, un portrait, ou de faire revivre les années 2000, parce que je crois que ça m'intéresse pas énormément comme époque. Et puis, je voulais que ça se passe maintenant, et je voulais qu'on se dise, ah, cette adolescente qu'on voit là, elle est en crise maintenant. Et c'est pas un truc où on peut se dire, ah oui, c'est bon, elle l'a traversé, c'est dans les années 2000, maintenant elle fait une pièce, ça va, tout va bien. Et je voulais pas forcément qu'on se dise que c'est un spectacle autobiographique, parce que c'est pas vraiment le cas non plus. C'est utiliser des émotions pour créer un personnage. Et je voulais que ça se passe maintenant, avec les questions qu'on a aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'en me disant, si j'imagine, si je me transpose moi maintenant, forcément, j'ai Instagram, j'ai les réseaux. Du coup, qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce qui se passe? Et puis après, moi aussi, ça fait depuis mon premier spectacle, il se passait déjà avec Facebook. Donc c'est un univers qui m'intéresse, quoi. C'est moi, pour moi, en tout cas, les réseaux, c'est un endroit où je m'informe, où je sonde un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui circule. Et ce monde parallèle-là, en tout cas ce monde parallèle de la jeunesse, auquel aussi il y a peu d'adultes qui ont accès, ça m'intéresse. Parce que quand des adolescents discutent entre eux sur les réseaux sociaux, c'est entre eux, quoi. Il n'y a pas de regard adulte, souvent.
Et le spectacle Jeanne d'Arc, donc c'est un live Instagram qu'on peut regarder sur Instagram chez soi. Quand on va au théâtre de la Commune en ce moment à Aubervilliers, on voit Elena de Laurence face à son téléphone, en train de jouer, de faire ce live Instagram. Il y a aussi deux écrans sur les deux côtés où on voit l'écran de téléphone. Sofiane Benlarbi et Lily Ducœur, vous avez vu et le live et le spectacle?
Ah oui. Ouais. Alors, personnellement, j'ai regardé deux fois le live sur Instagram et une fois, du coup, vendredi dernier au théâtre. Et ouais, du coup, je pense que c'est quelque chose de vraiment intéressant, la multifonction finalement que ce théâtre, que ce spectacle permet d'offrir, d'une certaine manière, de par la questionnement de la temporalité qu'a évoqué Marion juste avant. C'est quelque chose d'assez intéressant parce que, comme elle l'a dit, c'est un questionnement qui reste d'une certaine manière dans toutes les générations. On a tous passé, je pense, l'adolescence. On a tous eu des remises en question. On a tous passé des choses qui, d'une certaine manière, nous sont tous communes. Et on n'en parle pas beaucoup, et je pense que le média d'Instagram et le live en dit beaucoup, parce que le live, ce n'est pas une vidéo qu'on peut revoir deux fois, ce n'est pas quelque chose qu'on peut aller regarder à l'illimité, c'est quelque chose qui est dans un instant T et qui a un début et une fin. Même si on regarde plus, même si le live vient vendredi, samedi, etc., si ça devrait être joué une seule fois, ça serait le live et on n'aurait plus aucune archive. Et c'est ça qui est intéressant, je pense, de par la relation avec les parents, c'est que comme c'est un live, quelque chose d'instantané, et ben en fait on peut plus reconsulter, revenir en arrière et recomprendre la période de l'adolescence. Et c'est ce qui justement crée un espèce de fossé justement entre les parents et l'adolescence, etc. Voilà.
Lily Ducœur.
Pour le coup, moi, le soir même où j'y suis allée, j'avais pas trop envie parce que c'était loin. Je me suis dit, bon, au pire, je le regarderai sur Instagram. Mais j'y suis quand même allée. Et en fait, j'ai vraiment bien fait d'y aller en tant que public, en chair et en os. Non pas qu'on n'ait pas de chair et d'os à travers l'écran, mais du coup, il y a vraiment, en fait, des jeux, notamment avec les filtres. Si on était sur le live Instagram, on se rend pas compte à quel point ça change le visage. Enfin, on dirait un peu une drag queen, en fait, avec les filtres, Jeanne. Et nous, en tant que public, on voit qu'elle a vraiment pas la même tête, donc ça montre aussi à quel point c'est menteur, en fait. C'est une publicité mensongère. Et il y a aussi tout un jeu où nous, le public, on rigole parfois sur ce qui est écrit aussi également sur le live. Et il y a des gens, pour le coup, qui sont vraiment pas au courant que c'est une prestation artistique et qui se disent « Mais what the fuck, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a des gens qui rigolent ?» Et ça,
qu'est-ce qu'il y a des commentaires de ceux voilà. qui voient sur Instagram.
Et pour la partie Instagram, c'est aussi intéressant parce qu'on peut s'amuser à lancer nos propres punchlines et voir si le public rigole, du coup, et comme ça. Donc on peut participer aussi, quelque part.
Vous avez fait des commentaires, l'un et l'autre ? Pendant
moi,
le live,
personnellement, non.
Alors moi, c'est quelque chose que du coup, je me posais pas mal de questions dessus parce que, en fait, je pense que sans avoir l'avis de Marion et d'Elena, c'est très difficile à concevoir parce qu'on ne sait pas si on doit le faire. En fait, le vrai questionnement, c'est est-ce qu'on regarde une pièce de théâtre ou est-ce qu'on regarde Jeanne d'Arc qui fait son petit live et en fait, c'est tellement intéressant parce que un coup, on regarde comme si c'était une pièce de théâtre. Du coup, on a conscience que c'est une pièce de théâtre.
Et on sait qu'on est regardé, donc on sait que si vous écrivez le commentaire,
oui,
il n'y a pas que Jeanne d'Arc qui le voit. Donc, devenez acteur, c'est ce que Lily dit.
C'est ça. Mais du coup, je pense que se reposer la question du est-ce que je le regarde en tant que spectateur ou bien en tant que vraiment suivre Jeanne d'Arc, bah, c'est vraiment intéressant. Et comme l'a dit Lily, là, il y a une certaine proximité, mais à la fois une différence entre le live et la vraie représentation.
C'est totalement
parce
différent.
Parce que quand on regarde, je prends par exemple ce qui me vient en tête, la scène où il y a la mère de Jeanne d'Arc qui vient, à aucun moment dans le live, on se rend compte qu'il n'y a personne. En fait, comme c'est bien, c'est relativement bien filmé, et en fait, on ne voit, enfin, relativement, je veux dire, bien filmé, on ne voit pas en fait qu'il y a quelqu'un devant, et c'est bien filmé parce qu'on voit, que c'est, enfin, on voit juste le bras d'Elena.
On entend la voix de sa mère.
Et... Exactement, et en fait, on ne sait pas si elle est dans la pièce, à l'extérieur, et du coup, ça permet de poser aussi plein de questions.
Elena de Laurence, c'est pas rien d'avoir et répété et joué maintenant face au téléphone, d'être absorbée par sa propre image et de finalement avoir son image face à soi pendant tout le spectacle.
Bah maintenant je suis habituée. Ouais. Après moi j'aime beaucoup me regarder dans la glace, donc ça comble certains plaisirs. Après quand je joue, je suis pas en train de me regarder, enfin je me vois mais je me regarde pas. Et après, c'est plus comme si j'étais mon propre partenaire. Oui, c'est un sort d'élastique qu'il faut que je maintienne bien souple avec du rebond. Il ne faut pas que je me perde non plus dans l'observation de moi-même et de ce que je représente, enfin de ce que je vois. Mais il faut que je joue. En fait, je joue avec moi-même et aussi avec les commentaires. Et en effet. Ça, c'est un jonglage entre le texte que je joue, que je connais, et comment je peux parfois interagir avec les commentaires en étant Jeanne et pas en étant Elena. Donc ça, c'est aussi un exercice particulier.
Et ça, c'est vrai que c'est intéressant quand on voit le spectacle dans la salle. C'est l'entrée en fait du public sur Instagram, puisqu'on les voit arriver petit à petit avec les pseudos qui s'affichent. Et donc tout à coup, il y a comme un double public qui... Enfin, eux, ils ont un nom. Ils ont, parce que quand on va au théâtre, on connaît pas le nom de tous ceux qui sont autour de nous. Mais eux, que ce soit un pseudo ou un vrai nom, en tout cas, on les voit apparaître. Jeanne leur dit, bah, on se connaît, vous me connaissez pas, on se connaît pas. Et nous, on les connaît pas non plus, mais on sait que eux vont pouvoir interagir, vont pouvoir parler, contrairement à nous qui sommes assis dans nos sièges. Et vont pouvoir interrompre de temps en temps Jeanne. Et c'est vrai que ça, c'est assez, enfin moi en tout cas je l'avais pas vécu au théâtre, et c'est assez fort de se dire tiens, il y a un public parallèle qui lui devient acteur de la pièce. Est-ce que parfois, enfin à quel point vous êtes interrompu par étonné, ou à quel point ça joue dans la trajectoire de Jeanne, ces commentaires?
Déjà c'est quelque chose qu'on est en train d'expérimenter chaque soir. C'est très nouveau parce qu'on n'a pas pu beaucoup répéter avec des vrais spectateurs en live. Du coup c'est un truc qu'on a encore, je pense, beaucoup de choses à découvrir, et ça, chaque soir ça change. Enfin c'est vraiment en travail en ce moment. Et après pour répondre plus précisément, en fait, il y a des moments où je les vois pas déjà, parce que je suis en train de regarder ailleurs. Je regarde pas forcément tout le temps le téléphone. Puis il y a des scènes qui sont difficilement que je peux difficilement interrompre. Après c'est l'improvisation, donc ça va dépendre vraiment de quel commentaire. Ah celui-là je le vois à tel moment, et là j'ai un truc à dire. Ah celui-là il marche bien avec le personnage, je peux y répondre. Ah celui-là il est drôle, ah celui-là il est méchant, celui-là il est bête. Enfin, en fait ça dépend vraiment à quel moment ça arrive, quelle est l'énergie de la scène que je suis en train de faire, et aussi est-ce que je vais avoir une idée pour répondre à la chose. Alors après c'est assez fluctuant, et il y a pas encore de règles.
Et cette jeune fille, Jeanne, donc, qui a 16 ans, qui prend la parole sur Instagram pour la première fois, qui raconte qu'elle est harcelée à l'école, que, en gros, c'est un peu l'intello dont on se fiche, pas très jolie, qui rentre après les cours dans sa famille très catholique et qui commence à penser à la sexualité, mais qui sait pas du tout par où commencer. Cette jeune fille-là, elle prend la parole, mais la figure de sa mère aussi arrive. Et puis on se rend compte qu'elles ont une relation très conflictuelle. Ces personnages, vous les faites exister dans votre voix. Comment vous avez travaillé en répétition pour faire exister la mère, le père?
Bah ça s'est cherché au fil du travail.
En fait, c'est comme si Elena, elle était marionnettiste d'elle-même. Et avec le téléphone, elle manipule quelque chose. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de proche à l'art de la marionnette. Et du coup, c'était trouver pour chaque personnage quel cadrage, comment faire exister des dialogues, des situations, quel cadrage, quelle direction du regard aussi. Est-ce que c'est à droite, à gauche, suivant la situation aussi qui était, bah, je sais pas, deux personnes qui discutent dans la cuisine, ou la situation de la confession, ou Jeanne qui se retrouve face au gars dont elle est amoureuse, etc. Et puis il y avait aussi ce travail de voix où on n'a pas cherché à aller dans un... En fait, on est resté quand même proche du timbre d'Elena, mais en faisant des... en gardant cette idée que c'est toujours Jeanne qui imite ses parents.
Sofiane et Lily, quand vous avez vu la pièce dans le théâtre, vous avez regardé plus Elena de Laurence qui jouait face à son téléphone ou plus les écrans?
Tu veux commencer?
Bah,
non, si tu veux, je peux...
un peu les deux en fait. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans la mise en scène de soi, comme c'était explicité dans la brochure. Mais vraiment avec le téléphone, en fait, on peut créer des personnages en fonction des angles de vue, comme on l'a très bien remarqué, d'en haut, d'en bas, de côté, même quand elle fait les squats au-dessus du téléphone, enfin, c'est très drôle, quoi. Et du coup, vraiment, moi, j'ai regardé les deux, à la fois Elena et à la fois la retranscription du live sur les écrans, pour voir les commentaires. Enfin, c'est vraiment un double jeu, quoi. On a un peu les yeux partout, mais c'est super intéressant, du coup.
Parce que ça crée un corps et une chorégraphie pas commune de la voir jouer face à son téléphone. Sofiane.
Bah du coup par rapport à la chorégraphie, c'est intéressant que vous en parliez parce qu'il y a vraiment au niveau des postures qu'a Elena, il y a vraiment quelque chose qui est raconté, notamment avec des figures religieuses et aussi même qui relève littéralement de l'exorcisme. Même on peut y faire référence. Je pense notamment quand elle danse et que elle commence à mettre son bras sous sa tête et je pense que ça raconte pas mal de choses et même le décor qu'on a. Quand on regardait le spectacle, parce que j'alternais, en fait, une fois je regardais l'écran et une fois je regardais ce qui se passe vraiment devant moi. Même le décor, on a trois murs blancs et du coup le sol qui est aussi blanc et on a une sorte de petit triangle à gauche. Et en fait, moi personnellement, ça m'a fait penser un peu à une cave, à une sorte de cave, mais qui n'en est pas une car elle est blanche. Et en fait, cette idée de blancheur, ça me fait penser au réfléchissement, en fait. Quand on réfléchit, et du coup, pas sans se réfléchir penser, mais plutôt à la lumière qui réfléchit. Et donc, en fait, je conçois la lumière comme les pensées multiples qu'a Jeanne d'Arc. Et donc, en fait, ces pensées réfléchissent sur nous, mais genre littéralement du coup. Et donc en fait c'est ce qui crée du coup l'identité de Jeanne d'Arc, celle d'Orléans. C'est celle qui a plein de pensées, plein de voix dans sa tête, et les voix et les pensées déjà sont réfléchies avec les murs. Et là, au niveau de la musique aussi, en fait ce sont les seules voix qu'on entend extérieures. Et donc même au niveau du son, littéralement les vibrations se font et donc ils vibrent contre les murs. Et du coup c'est ce qui me paraissait intéressant de relever encore une fois.
On va écouter la rappeuse Lago de Feu qui parlait en 2018 de la figure de Jeanne d'Arc et comment elle l'imaginait aujourd'hui.
La première fois que j'ai croisé la route de Jeannette, il y avait plein de films, quand j'étais petite, il y avait plein de films sur elle, des trucs improbables, je crois, avec des Isabelle Adjani, des machins, des trucs un peu intenses. Et j'étais très mal à l'aise avec sa coupe de cheveux et tout, mais je trouvais que quand même le côté l'armure, c'était fou. Genre Nick en fait. En plus moi j'ai grandi dans le 6e, le monde de la mode, tout ça, les femmes, les années 90, les top modèles, les bonasses, Claudia Schiffer et tout. Puis au milieu de ça t'as Jeanne d'Arc avec sa coupe de jacouille de l'enfer et sa grosse armure et tout. Et en fait ça envoie du lourd quoi. Pas peur quoi. Bon quand même je l'imagine un peu grande. Mais ils ont mis un truc là dans Game of Thrones, il y a une sorte de blondasse un peu genre Jeanne d'Arquesque. Peut-être un peu comme ça, mais en même temps, on est en 2018, donc non. Moi, je pense qu'elle serait détente, elle serait peut-être une hypeuse aussi, au secours. Jeanne d'Arc, la hype, je gerbe, je serais trop dégoûtée. Non, mais je sais pas, alors peut-être que ça serait bien si elle était lesbienne. Elle avait un gang de go incroyable et qu'elle était en haut et qu'elle comptait, hein, et qu'elle est peut-être même une Raël du lesbianisme Jeanne d'Arcien. Ça pourrait être fou. Mais non, j'arrive pas. J'aimerais bien qu'elle soit grande, mais si elle était petite, je trouve que les petites meufs ont autant de game que les grandes, donc j'arrive pas à... Voilà. Elle aurait des grands pieds. Uma Thurman, elle a des grands pieds. Les meufs qui ont des grands pieds, elles ont du game, je trouve. Voilà.
Elena de Laurence, vous étiez d'accord avec les grands pieds?
Oui, j'ai des très grands pieds.
En tout cas, ça pose la question de comment on voit, je trouvais ça marrant, comment on imagine Jeanne d'Arc aujourd'hui. Et on parlait un petit peu, Marion Sieffert, tout à l'heure, de la religion catholique que vous connaissez bien et que vous aviez envie d'explorer là, dans cette pièce. À travers les parents, c'est assez fort ce qui est renvoyé de cette religion et à travers la façon dont finalement les parents lui imposent de tout raconter, de bien réfléchir avant d'avoir une relation. Il faut que ce soit un vrai engagement et puis de pas être violente, d'être polie. Il y a un rapport aussi à la violence qui est intéressant parce que son père lui dit « Mais Jeanne, tu es violente » quand elle commence en fait à s'engager et à avoir un avis presque politique. Et j'imagine que ce rapport de Jeanne d'Arc à la violence et l'adolescence et la violence aujourd'hui vous intéressait aussi?
Oui, alors par rapport à la violence, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pu observer souvent. C'est que, je sais pas, l'Église fabrique un peu des soumis. Dans le sens où, quand on va à l'Église, on prie à chaque fois pour les pauvres, pour mais pour qu'ils continuent à supporter, pour qu'on continue à supporter. Et tout ce qui est, dès qu'il y a de manière collective, enfin voilà, c'est une question politique, dès qu'il y a des individus qui se rassemblent de manière collective, pour protester contre des injustices qu'ils vivent. Souvent, la majorité des catholiques, qui sont souvent aussi la majorité des bourgeois, donc qui ne sont pas concernés par ces injustices-là, s'abritent derrière des valeurs morales et vers des dogmes de non-violence, justement pour ne pas voir et pour conforter en fait, un ordre qui les arrange. Et ça, c'est quelque chose que j'ai observé à de très nombreuses reprises dans le milieu dans lequel j'ai grandi. Et du coup, ça me semblait important en fait de parler de ça et de montrer d'où vient cette non-violence et d'interroger aussi l'ordre politique en fait que ça implique.
Et ça pose aussi la question de la possibilité même de la sexualité quand on est une jeune fille dans une famille très pratiquante.
Oui, c'est sûr que... Alors, je pense que toute personne qui a grandi dans la religion catholique a reçu, soit par ses parents, soit par les personnes qui encadrent la religion, que ce soit des prêtres, les personnes qui font le catéchisme, etc., des injonctions de cet ordre-là au moment de l'adolescence. Mais ça peut être vraiment des questions, et c'est vrai ce que je raconte, c'est-à-dire poser à des jeunes garçons en moment de la confession, est-ce que vous vous masturbez? Donc un prêtre qui va poser ça à un jeune garçon de 14 ans, avec toute la charge de honte si jamais il répond oui, et l'espèce de morale et de tout rattacher, toutes ces interrogations, de tout rattacher à ça. Et c'est vrai que ça a créé, je pense, pas mal de dégâts là-dedans. Et puis, en tout cas, il y a un ensemble en fait de morale, de tabous, aussi beaucoup d'ignorance qui entoure toutes les questions liées au corps et à la sexualité. Du coup, moi, en tout cas, dans cette pièce, j'avais envie de parler du lien entre la religion et la sexualité parce que ça me semblait en fait fondamental et parce que, en tout cas, j'avais observé que chez moi, ça avait eu un impact extrêmement fort.
Sofiane, vous vous rappelez du moment du spectacle où on entend cette chanson?
Oui.
Et c'est une chanson que vous connaissiez?
Forcément, j'ai envie de dire, c'est quand même un gros classique de la musique française et je pense que...
Parce qu'en même temps, c'est pas du tout votre génération.
Oui, c'est clair.
C'est pas parce qu'on est des années 2000 qu'on connaît pas.
Hein. Ah bah merci, ça fait plaisir, ça rassure.
On même ça en soirée parfois.
Ah oui?
Ouais, dans les instants nostalgie.
C'est une musique qui traverse les époques et donc ouais, il y a un message fort quand même. Enfin, c'est quelque chose qui allie à la fois notre génération, donc ceux qui sont nés en 2000 et toutes les générations qui suivent à partir de la sortie de la musique. Donc oui, c'est sûr que on a tous cette prise de folie et on a tous envie de danser, qu'importe la génération, qu'importe l'âge ou qu'importe le milieu.
PR2B, ça pourrait vouloir dire « pour rêver debout ». Son EP s'appelle « Des rêves », sa voix fait entendre du poème, du rêve et du réel, ça se frotte sans cesse, ça crée de la langue d'aujourd'hui pour dire les espoirs mais aussi les peurs, ça crée un rythme ancré dans le sol mais avec le corps qui décolle. PR2B, alors je me retourne vers Pauline qui est dans le studio avec nous. Ça a été quoi les rêves qui ont peuplé l'écriture de cet EP et de ses chansons ?
Bah, y en a beaucoup. Déjà il y a le rêve de raconter des instants, de raconter des émotions, de raconter des coups, des flashs. Et puis il y avait l'envie de faire un portrait aussi parfois pas très heureux, un peu brusque de la vie. Et en même temps l'envie de le chanter à plusieurs ensemble et qui est de l'espoir toujours. C'est ça que j'aime bien, c'est avoir la rage avec l'espoir.
Et il y a une vidéo là pour la Dolce Vita, le clip que vous avez tourné pendant le printemps.
J'étais comme tout le monde, confinée au fin fond d'un petit appartement à Marseille. Et je sais pas, c'est la mort quoi. Donc, et en fait, on devait sortir cette chanson qui s'appelle Dolce Vita et qui est en fait une chanson de joie, d'amour et d'élan. Et je voyais cette ville vide. Et à un moment, je me suis dit, bon, bah, rappelle-toi aussi des comédies musicales, de chantons sur la pluie et qu'en fait, les studios vides ou les rues vides, et ben, on peut y danser dedans. Et je me suis dit, bah, du coup, le jour de la sortie du confinement, je vais aller danser à Marseille et c'est peut-être le seul moment où dans la tristesse et dans la torpeur, on peut peut-être essayer de créer des instants de fête ou de magie.
Et je vous invite à aller voir la vidéo parce que ça fait du bien de vous voir danser au milieu des rues et sous le ciel bleu. Le morceau qu'on écoute s'appelle Des rêves et c'est le titre aussi de l'EP. Absolument. Et l'album arrivera au printemps.
Je suis PR2B en studio avec Marion Sieffert, Elena De Laurence, Sofiane et Lily. Vous écoutez Tous en scène sur France Culture avec Aurélie Charron.
Je suis dans la vie comme dans mes rêves. Et quand je crève, je suis le cri de qui me croit ou qui me prie. Je suis comme ça dans la vie. Je renie jusqu'à mon sang et je ne sens plus qui je suis. Il n'y a plus d'innocents. J'aimerais dire que je sais ma route et que je ne doute que quand j'ai bu, mais vu que je suis à nu, plus personne avec qui ruminer mes envies. Et vivre sans avoir l'air, cher comme un courant d'air. Derrière la vie, mon frère pleure de me voir si triste. Dans mes rêves, ils ont tout pris, tout pris. Le monde crève, mais on sourit. C'est un rêve où ma folie, folie. Les gens rêvent et puis oublient. Il était 5h et je me lève en sueur dans mon lit. Je n'ai pas dormi aussi mal que depuis la nuit où j'avais rêvé avoir tué de sang-froid un homme, bam, avec une âme que j'avais trouvée là, sur le sol. Mes jours se suivent et ne se ressemblent que par leurs bêtises. Je n'attise pas le feu, mais je veux qu'on me dise pourquoi la vie est une pute, pourquoi veut-elle qu'on l'écoute pour le pousser vers la chute, avec l'amour dans les côtes. J'ai pris le métro et j'ai vu la peur dans leurs yeux. Ils ne fuient plus, ils se flippent tous et les flics courent celui qu'on tue. Ils ne regardent plus que leur smartphone. Dans mes tout pris, tout pris. Le monde crève, mais on sourit. C'est un rêve où ma folie, folie. Les gens rêvent et puis oublient. sans trêve. Je voudrais que crèvent tous les artifices pacifistes. Je n'en suis pas moins en colère. J'aimerais bien que la chair se rebelle à la terre. Je rêve que les rues d'Hollywood se fendent en deux, les stars au coude à coude et les pauvres au milieu. De rien sur la montagne, des espoirs démentis, plus rien que la complainte pathétique des nantis. Je rêve tous les soirs quand je suis dans mes songes, et les visages émaciés qui s'en vont vers les tombes, les fantômes obscurs, les rues sans objectif, les rêves à la chaîne d'un beau pays fasciste. Il y a dans les yeux toujours un peu d'espoir. Je veux dans le noir y croire, toujours y croire, même les chiens n'en peuvent plus d'obéir à leur maître. Je ne serai jamais à eux. Ce matin, il fait beau et je signe avec mes doigts. Le sang d'hier qui sèche vivra à travers moi. Et toi, nous irons danser comme tous les samedis. Je ne pense qu'à rêver que les étoiles oublient. Quand les cœurs et les corps sont au même BPM, je m'oublie puis j'oserai te dire que je t'aime dans mes rêves. Ils ont tout pris, tout pris. Le monde crève, mais aussi c'est un rêve où ma folie, folie, les gens rêvent et puis oublient.
Tout le monde mime autour de la table les applaudissements.
On a le droit.
Elena de Laurence, vous êtes venue avec un livre.
Oui.
Pour nous en lire un extrait. Ça s'appelle « Que le diable m'emporte ». Et c'est de...
Marie MacLean. Butte, Montana. 13 janvier 1901. Moi, membre du genre féminin et âgé de 19 ans, je m'apprête à dresser un portrait aussi franc et complet que possible de moi-même, Marie MacLean, qui n'a pas d'égal dans le monde. J'en suis convaincue, car je suis étrange. Depuis ma naissance, je me distingue par mon originalité, et ce n'est pas fini. Je possède une intensité vitale totalement inhabituelle. J'ai le don de ressentir, j'ai une aptitude merveilleuse pour le malheur et pour le bonheur. J'ai une grande ouverture d'esprit. Je suis un génie. Je suis une excellente école philosophique itinérante à moi toute seule. Je ne m'intéresse ni au bien, ni au mal. Ma conscience est égale à zéro. Mon cerveau abrite des tendances opposées qui se font la guerre. J'ai atteint un état sincèrement merveilleux de malheur misérable et morbide. Oh, comme je me connais bien. Je suis parvenue à un niveau d'égotisme extrêmement rare. Je me suis enfoncée au royaume des ombres. Tout cela constitue l'étrangeté. Par conséquent, j'en déduis que je suis très, très étrange. 14 janvier. Je porte en moi les germes d'une vie intense. Si seulement je pouvais vivre et réussir à écrire ma vie, le monde entier ressentirait la violence de cette intensité. J'ai la personnalité, la nature d'un Napoléon, mais dans sa version féminine. Par conséquent, je ne conquiers rien, je ne me bats même pas, je parviens seulement à exister. Pauvre petite Marie MacLean, quelles vies te sont interdites et quelles perspectives merveilleuses. Mais te voilà dans la terre, à moitié enterrée, une graine tombée dans le sol stérile, toute seule, incomprise, obscure. Pauvre petite Marie MacLean. Ô monde, verse des larmes. Pourquoi restes-tu indifférent pour la pauvre petite Marie MacLean? Si j'étais née homme à l'heure qu'il est, j'aurais déjà fait forte impression sur l'univers, ou du moins l'une de ses parties. Mais je suis femme, et Dieu, ou le diable, ou le destin, ou quiconque est responsable de mon sort, a écorché l'épaisse enveloppe extérieure de ma peau et m'a balancée au milieu de l'existence en m'abandonnant, moi, pauvre chose solitaire, moi, créature damnée, remplie du sang écarlate, de l'ambition et du désir, mais terrifiée à l'idée qu'on me touche, car la barrière de la peau entre ma chair sensible et les doigts du monde a disparu. Et pourtant, je veux qu'on me touche.
Pourquoi vous aviez envie de porter la voix de Marie MacLean, Elena de Laurence?
Déjà, c'est un livre que j'adore. Elle est drôle, elle est complètement mégalo. Et on sent qu'il y a une sorte d'urgence terrible à dire qui elle est, alors qu'elle est perdue dans le Montana en 1901. Et aussi, c'est un texte à la première personne, donc c'est vraiment un texte auquel que je me dis que je pourrais jouer. Et je l'ai fait lire à Marion pendant l'année dans laquelle on a travaillé Jeanne d'Arc. Et du coup, je pense que ça résonne pas mal avec le personnage et une personne qui dit « je » et je pense que ça produit énormément de bouleversements, en fait, de se dire soi-même. Et je trouve ça assez beau. Après, elle a aussi un côté complètement narcissique et qui est assez... Et je pense qu'elle a beaucoup d'humour aussi. Et j'aime beaucoup ce livre. C'est publié aux éditions du Sous-Sol. Et je le conseille à tout le monde.
Alice Zeniter vient de créer son seul en scène entre conférences théâtrales, confessions, difficile de le résumer en quelques mots. En tout cas, ça s'appelle « Je suis une fille sans histoire ». Elle joue son propre rôle de romancière et à la première personne, elle dit « je » justement, elle annonce « Pendant une heure et quart, je vais vous parler du récit ». Et elle questionne la mise en récit à chaque instant de nos vies. Alice Zeniter, est-ce que vous nous entendez ?
Oui, très bien.
Est-ce que c'est possible d'être une fille sans histoire ?
Alors non, c'est une des choses qui me semblait très étrange de me dire la langue française, elle nous donne complètement une fausse piste parce qu'on peut dire de quelqu'un oui c'est une fille sans histoire et penser que c'est un compliment. On peut dire à quelqu'un n'en fais pas toute une histoire comme si c'était un reproche. Mais en réalité, on est tous pétris de ces histoires, donc autant l'accepter et plutôt essayer de les étudier au lieu de penser qu'on peut vivre sans et que ce serait une bonne chose.
Et pour ouvrir ce seul en scène, Alice Zeniter, vous parlez du récit et vous rejouez un atelier d'écriture, ce qui pourrait être un atelier d'écriture mené par Aristote. Vous parlez de la poétique et vous réalisez qu'une bonne histoire pour Aristote, c'est surtout finalement peut-être une histoire d'homme remarquable qui fait des trucs, je cite, de préférence violents. En tout cas, qui a peu de femmes dans ces histoires et qu'il y a beaucoup d'hommes et de violence. Pourquoi ça ouvre ça, la réflexion sur le récit ?
Parce qu'en fait, je pense que les premières fois que je me suis penchée sur ce texte, je ne prêtais pas attention à ce qui pouvait être violent dedans, à ce qui pouvait être des commandements extrêmement difficile, parce que je me disais, bon, finalement, Aristote, il se contente de se retourner sur la tragédie grecque, sur des œuvres passées, et donc il analyse ce qui a déjà été produit. Et c'est un peu plus tard que j'ai réalisé qu'en fait, les définitions qu'Aristote, elle donne dans la poétique, elles sont encore utilisées aujourd'hui. J'en ai retrouvé dans des manuels américains d'écriture de scénarios. Et donc, l'idée qu'il y a, en fait, totalement une pérennité, de ce qu'a scène Aristote, l'idée que voilà qu'une bonne fable c'est l'histoire d'un homme remarquable, d'un homme meilleur que nous, et que cet homme il doit être en action, cet homme il doit agir, et qu'on peut pas raconter une bonne histoire qui parlerait de femme ou d'esclave parce que la femme est un être plutôt inférieur et l'esclave un être tout à fait médiocre. Ben, j'ai vraiment l'impression là maintenant de pouvoir voir les sillons de conséquences que ça a laissé cette parole autoritaire sur qui a le droit d'être raconté et qui n'est pas intéressant.
Et ce qui est intéressant, c'est que vous questionnez vous-même votre propre façon de raconter les histoires, puisque vous écrivez des romans, et vous dites que c'est difficile, même quand on en est conscient, d'échapper à un schéma narratif dominant, et par exemple de renoncer à une résolution dans une histoire.
Oui, finalement, il y a une forme... Il y a une forme de séduction dans le schéma narratif classique, et puis de manière très simple, on a été habitué à ce schéma. Donc une histoire sans résolution, ou une histoire sans point culminant, sans point climatique, ça nous donne l'impression que c'est une chaise auquel il manque un pied. On se dit, ah, il y a quelque chose qui va pas. Et c'est assez compliqué de se dire, ah non, peut-être qu'en fait, il s'agit tout à fait d'une nouvelle forme, qu'elle peut fonctionner, que je peux échapper à la séduction immédiate de tel personnage de héros, telle péripétie obligatoire, telle moralité qui arriverait à la fin. on a beau pouvoir analyser les constructions, c'est un travail bien plus lent, bien plus long de s'en défaire, d'y renoncer.
Il y a aussi cette question, on en parlait à l'instant avec Elena de Laurence qui lisait Mary MacLane en disant bah là c'est une femme qui parle à la première personne, qui dit je, et déjà c'est quelque chose, déjà ça raconte quelque chose. Vous parlez à Alice Zeniter dans le spectacle aussi de la façon dont on peut donner la parole à des personnes dont les récits sont étouffés ou en tout cas qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et vous vous demandez si ça a un effet sur le lecteur et lequel et est-ce que ça peut durer. Ça c'est des questionnements qui vous accompagnent depuis longtemps ou...
Oui, c'est des questionnements qui m'occupent à tout instant et finalement je pense que c'est pour ça aussi que je suis si heureuse de pouvoir faire ce seul en scène, c'est que les livres que j'ai écrits, ils constituent une réponse à un moment donné à ces questions qui elles durent toujours. À qui on donne la parole, quel personnage on crée, quelle forme on va donner à cette parole, qu'est-ce qui se joue toujours d'infiniment politique dans la représentation, dans la place qu'on donne à telle ou telle parole, et puis qu'est-ce que nous auteurs autrices on peut rêver de ça, c'est-à-dire est-ce qu'on s'imagine que quelque chose peut changer, se déplacer à la lecture de cette parole? Est-ce qu'on se dit que non, que c'est juste une tentative minuscule, mais que c'est pas grave, parce que finalement c'est la seule chose qu'on sait faire, on pourrait rien faire d'autre, donc autant faire ça. Est-ce que voilà, qu'est-ce qu'on peut espérer? Est-ce que c'est encore possible de croire à un immense pouvoir de la fiction ou pas?
Et vous ouvrez sur une question sur ce qu'il reste à écrire. Qu'est-ce qu'il reste à écrire? Que ça commencerait par quoi?
Eh ben, ça c'est la vaste question de la fin du seul en scène, c'est-à-dire pendant une heure, une grosse heure, je peux analyser les formes de récits qui me paraissent être devenues à la fois poussiéreuses et nuisibles, délétères, qui me paraissent incapables de dire certaines relations, donc que ce soit des relations entre hommes et femmes. Mais aussi de notre relation au monde, à la nature, au vivant non humain. Et donc, il y a quelque chose de merveilleux une fois qu'on a dit il faut arrêter avec ces récits-là. Maintenant, ils sont clairement délétères, on les fait taire, on a du silence. Et dans ce silence, il y a des tas de nouveaux récits qui peuvent s'inventer, mais c'est aussi paralysant. C'est tout à fait paralysant, c'est-à-dire je renonce à des outils qui ont été passés depuis des siècles et des siècles. Et maintenant, il va falloir bricoler quelque chose de neuf. Et sur ça, je sais pas si j'ai la réponse, mais j'ai envie que tout le monde ait envie de venir bricoler à mes côtés.
Il y a ce qu'il reste à écrire et il y a la question ce qu'il reste à représenter. Et Marion Sieffert, avec qui on est en plateau, en studio, se la pose souvent. On va écouter un petit extrait du documentaire sur son spectacle du Sal.
J'avais passé mon adolescence à Orléans, bien protégée dans le giron familial, puis j'avais fait des études supérieures, une grande école. Je me rendais compte que depuis le lycée, je n'avais fréquenté quasiment que des gens dont le parcours était similaire au mien, des gens qui avaient fait des études et qui s'étaient construits en passant des concours. Je sentais que je tournais en rond et que je retombais toujours sur les mêmes façons de vivre, de penser et de parler. Je me disais aussi que si le théâtre ne s'ouvrait pas à autre chose qu'au problème de la moyenne et grande bourgeoisie blanche éduquée, il allait crever sur place.
Marion Sieffert, c'est encore fort cette question pour vous de ce qu'il reste à représenter ou de ce qu'il faut bricoler, comme le dit Alice Zeniter, pour créer de nouveaux récits?
Bah oui, et puis c'est l'envie aussi de faire des rencontres grâce à ce qu'on fait. Et puis, en fait, c'est juste que faire une pièce avec des personnes, c'est quelque chose de tellement fort. Ça crée des types de relations qui n'existent pas dans la vraie vie. Du coup, oui, l'extrait que vous avez diffusé sur le documentaire, c'est la pièce précédente où j'étais venue d'ailleurs à cette émission avec Laetitia Kerfa et puis il y a aussi Janice Bielleux.
Une danseuse et une rappeuse.
Voilà, une rappeuse. Et Laetitia Kerfa, que vous pourrez découvrir aussi dans la saison 2 de Validée, puisqu'elle a décroché le premier rôle.
Sofiane et Lily, est-ce qu'il y a des pièces de théâtre ou des récits ou des histoires qui vous ont modifié, qui vous ont changé? Puisque c'est aussi une des questions qu'Alice Zeniter pose dans son spectacle.
Vas-y.
Dans le spectacle de Jeanne d'Arc.
Ou d'autres spectacles, en tout cas dans votre vie, est-ce qu'il y a des moments comme ça?
Pour parler de celui-ci, par exemple, moi j'ai trouvé ça, c'était presque, malgré le côté très rigolo, etc., comme un documentaire, en fait, sur notre génération. Parce que j'ai personnellement vécu... À l'époque, c'était Periscope. Il n'y avait pas encore les lives Instagram. J'avais 14-15 ans. Et je me rappelle, je me maquillais le matin, à 6h du matin, en live. Quoi. Pour le coup, c'était devenu mon écran, c'était mon miroir pour me maquiller. Et j'avais des gens que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève qui me disaient des tollés d'insultes. Mais rentre chez toi, tu sais pas te maquiller, frère. Qu'est-ce qu'elle fout là? Elle, à 6h du matin, va te coucher. C'est comme ça. Ce qui est pas faux, d'ailleurs, mais... Je veux dire, déjà qu'à l'adolescence, c'est compliqué, on peut pas se voir. On se dit, bon, bah, je vais me renfermer dans les réseaux sociaux, ce sera peut-être mieux. Et au final, parfois, c'est encore plus dévastateur. Donc voilà, c'est aussi pourquoi ça m'a un peu touchée, ce spectacle, parce qu'il aborde plusieurs aspects politiques, dont aussi cet aspect-là.
Sofiane ?
Moi, personnellement, j'ai pas vraiment eu, depuis mon adolescence, de problèmes très graves, liés au social. Dans le sens où, c'était peut-être quand j'étais plus jeune, mais dans le sens où j'ai toujours su relativement bien m'entendre avec tout le monde. Donc, ça va, à l'adolescence, j'ai pas eu de problème. Et pour revenir aux expériences un peu bouleversantes liées au spectacle, alors si je devrais citer deux choses qui m'ont vraiment changé dans ma vie, changé complètement mon mindset, je pense que ça serait le concert de BTS que j'ai fait et qui a totalement changé ma personne, je pense, parce que c'était le début de quelque chose de nouveau, un peu comme un sort de renouveau, et aussi ma rentrée en seconde quand j'ai eu le début du français un peu français du côté littérature, et ça c'est comme une sorte de prise de conscience, et moi je l'ai vécu un peu comme si je passais vraiment de l'ignorance à quelque chose une surélévation, et c'est là que j'ai compris et que j'ai construit mon esprit critique et que je suis devenu quelqu'un qui autre finalement que mes que le moi du collège et d'un.
Du coup, je sais pas si je peux continuer de parler, mais juste par rapport au théâtre, pour moi, je le vois vraiment comme quand on se sent pas bien, je vais voir une pièce, après, je suis vraiment guérie, quoi. C'est un peu mon opium. Et là, ça m'a fait rire, cette pièce, parce qu'elle est un peu un entre-deux. Elle dit qu'elle est pas la meuf cool, mais pas la meuf populaire. Elle est, voilà, quoi. Et ça m'a fait penser à moi, parce que j'étais vraiment, puis les gens, ils en veulent pas des entre-deux, en fait. On veut tout ou rien, mais on veut pas la meuf qui est soit moche, soit belle, enfin, un petit peu des deux mélangés. Voilà, donc ça m'a fait rire parce que je suis ressortie, grandie, je sais pas, mais en tout cas, j'ai pu vraiment me retrouver dans ses propos.
Commencé par le Brésil, on est passé par Instagram pour explorer toutes les scènes possibles et entrevoir ce qu'il reste à écrire et à représenter. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation de cette émission, à Inès Duperron pour la préparation, à la technique ce soir, merci à Jason Taous et Christophe Goudin. Bientôt il sera 21h, vous écoutez France Culture, c'est l'heure de la fiction, un tout nouveau texte de l'auteur François Perrache, Les Palmes.